France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Week-end. Et ce matin, nous célébrons les plaisirs des cuisines levantines et nord-africaines. Quels sont leurs points communs et leurs spécificités? Nous essaierons ce matin de capter l'essence de ces cuisines qui célèbrent le partage en compagnie du chef Grégory Cohen et de l'autrice Farah Karam. Bonjour Christine Appelé-Douel.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendante et autrice de ces livres qui nous font du bien, quel est votre plaisir littéraire du week-end?
Un roman noir signé Jérôme Leroy qui s'appelle La Petite Fasciste, et Leroy est le digne héritier de Manchette, Fajardi et toute cette génération de romanciers.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique?
Bien, dans le prolongement de la discussion de cette émission, question: certaines cuisines sont-elles meilleures que d'autres?
Pas de guillemets odicinaux pendant quelques semaines, Festival de Cannes oblige, mais on lui souhaite quand même un bon anniversaire.
Ah oui, c'est aujourd'hui.
En revanche, vous retrouverez la chronique avec la langue de notre linguiste de la Sorbonne, Julie Neveu, en fin d'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Tu veux des oignons?
Oui,
je te mets des oignons.
Il y a
ton fils?
Non, bien sûr. Ils ont l'air bien cuits, ces oignons.
Maman, il faut rajouter un couvert. Il y a Sergueï qui mange avec nous.
Ouais.
Ma puce, tu vas me donner les assiettes des petits. Allez, asseyez-vous.
Comment t'as eu du poisson?
Franchement, ta mère t'a pas appelé.
Ça va?
D'abord,
ça va,
ma puce.
Tes yeux, toi.
Tu veux quoi, chichon?
Un peu de tout.
Tiens, fais-moi ton assiette. Je te mettrai le poisson dans ton assiette pour que tu le décortiques.
Ok. Vous êtes tous servis? Est-ce que tout le monde a eu de la sauce?
Oui.
Les légumes aussi?
Oui.
Bon appétit.
Bon appétit, la famille.
Merci, bon appétit.
On sent que c'est fait avec amour.
L'amour. C'est cause de l'amour.
Extrait de La Graine et le Mulet de Kechiche. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du One Place à Rungis en région parisienne, ça vous rappelle évidemment des souvenirs, hein, ce qu'on vient d'entendre.
C'est une tablée de famille que j'ai connue et que j'adore.
Vous publiez chez Le Duc Yalla, ma cuisine méditerranéenne. Yalla du nom de l'un de vos restaurants de Rungis. Ça veut dire quoi exactement, Yalla?
Ah, Yalla, c'est Yalla pour moi, c'est le mot qui rassemble tout le monde. C'est le mot qui rassemble toutes les communautés, qui rassemble toutes les religions, qui rassemble toutes les origines. Ça veut dire en avant, on y va. Sœur Emmanuelle, elle le criait. Calogero, il le chantait. Dans La Vérité, si je mens, on se marrait là-dessus. Et en fait, où qu'on se trouve, Yalla, ça rassemble. Et pour moi, c'était une évidence parce que la cuisine rassemble forcément. Donc ce titre était, sonnait réellement comme une évidence.
Bonjour Farah Karam.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste culinaire indépendante et vous publiez un très beau livre avec Nina Medioni, Cuisine d'Afrique du Nord, cuisine au pluriel. Les cuisines d'Afrique du Nord qui s'étendent sur plusieurs pays, plusieurs régions. Et vous auriez pu consacrer un livre à chacune de ces communautés, à chacune de ces régions, à chacun de ces pays, hein.
Absolument. Merci de souligner le cuisine au pluriel. Et encore, ce livre n'est pas exhaustif et je pense qu'aucun objet littéraire ne le sera jamais.
Au fond, Grégory Cohen, qu'est-ce qui relie ces cuisines levantines et nord-africaines au-delà de leur singularité? Quel est le socle commun? Peut-être un mot sur ce qu'est la cuisine levantine, très à la mode en ce moment. C'est le chef anglo-israélien Yotam Ottolenghi qui a popularisé la cuisine levantine dans ses livres. C'est quoi exactement?
Alors la cuisine levantine, pour moi, c'est une cuisine qui est décomplexée, qui est une cuisine qui se partage, qui se transmet à l'oral principalement, et pendant très longtemps, une cuisine familiale. Cette fameuse cuisine où on disait « Est-ce que tu peux me donner la recette ?» Et puis on avait notre grand-mère qui disait « Bah tu mets un peu de ça, et un peu de ça, et un peu de ci. » Et au final, on lui disait « Mais t'as pas oublié ça ?» Elle fait « Ah oui, tu mets ça aussi. » Et en fait, cette cuisine, c'est une cuisine qui est vivante. Ça veut dire que c'est une cuisine qui appartient un peu à chaque famille.
Elle est située où? Alors, géographiquement?
Le Levant, c'est un ancien empire, une ancienne région qui est toute la bordure méditerranéenne qui inclut l'Asie aussi. Donc on pourrait dire que ça fait la Syrie, Israël, l'Égypte, ça
le
part
Liban.
Par là, le Liban évidemment. Et donc ça, c'est la partie. Moi, j'ai élargi un petit peu sur la Méditerranée. Mmh. parce que profondément c'est mes racines, et du coup j'ai intégré la Grèce parce qu'il y a quand même beaucoup de recettes qui se chevauchent. Et puis mes origines, où mes parents sont nés en Algérie, mes grands-parents en Kabylie, et donc toute cette cuisine aussi du Maghreb que j'ai intégrée dedans.
Qu'est-ce qui relie ces cuisines levantines et nord-africaines? Quel est le socle commun?
Je pense que c'est les grandes tablées, je pense que c'est des plats de partage. Quand on fait, on partage, on mange avec les mains, on partage des choses. Si je prends du houmous, le houmous il se met au milieu de la table. Le houmous il se met pas dans un plat.
Le houmous est une purée de pois chiches.
C'est une purée de pois chiches avec de la crème de sésame, un peu de citron, de l'eau. On monte tout ça en émulsion, sorte de mayonnaise du Proche-Orient, on va dire. Et ça c'est génial. La tchatchouka par exemple, c'est un plat qui est vraiment emblématique. Donc c'est une salade à la française. On dirait que ça serait une salade cuite. Donc c'est tomates, poivrons, mais en fonction de la région dans laquelle on se trouve ou de nos origines, la tchatchouka d'Algérie peut s'appeler tchouchouka par exemple, et puis elle va être différente de celle qu'on va manger à Jérusalem ou de celle qu'on va manger ailleurs. Chaque tchouchouka va évoluer en fonction des personnes.
Et on retrouve, Farah Kerram, une recette de tchouchouka dans votre livre. Et qu'est-ce qui rassemble toutes ces cuisines d'Afrique du Nord, à la fois singulières et communes? Quel est le socle commun en dépit des singularités?
Je dirais que c'est vraiment la terre dans le sens large, c'est-à-dire terre et terroir à la fois, puisque l'Afrique du Nord est une région du monde qui a été brassée par des influences très diverses, donc andalouse, ottomane, bien sûr l'Empire romain, mais c'est aussi une terre amazigh et arabe. Et donc, en l'occurrence, ces différentes invasions et occupations, puis bien sûr la période des protectorats et de la colonisation, ont fait que il y a un véritable socle commun qui, pour moi, dépasse le cadre des frontières terrestres actuelles, des tracés géographiques, qui est des influences multiples, des produits du terroir, vraiment un sens de la terre extrêmement profond, des épices, l'utilisation de certaines épices, des interdits alimentaires également. Donc je dirais que c'est ça, et puis, plus encore, on sort un peu de l'assiette, mais finalement pas tellement, c'est toute la question de l'anthropologie. En fait, ce sont des cuisines qui sont extrêmement codifiées d'un point de vue rituelique. Il y a des rituels alimentaires, il y a une symbolique dans les plats, il y a une superstition qui est liée à la cuisine, et ça, pour moi, c'est ce qui les rassemble.
Pour l'historienne Marilyn Crivello, ce sont moins les ingrédients qui caractérisent l'alimentation méditerranéenne et notamment donc nord-africaine qu'un système alimentaire propre. Des techniques de préparation de l'alimentation typique, comme les farces, les modes de cuisson, comme le grillé ou la friture, les jeux avec les couleurs ou encore les épices, les odeurs, les saveurs, les textures.
Ce sont effectivement des cuisines où le geste est le point de départ de tout. C'est vraiment la question de la symbolique dans la cuisine.
Qu'on retrouve dans le couscous, par exemple.
Oui, le couscous, qui est que moi je nomme art ancestral, qui est d'ailleurs le seul plat qui peut se targuer d'être nord-africain et partagé par l'ensemble des nord-africains. C'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment, c'est d'un point de vue de l'histoire. Et la graine de couscous, finalement, elle est travaillée d'une façon qui s'inscrit dans un cadre donc anthropologique et civilisationnel, avec la façon dont on la mouille, la façon dont la femme, parce que c'est souvent le lieu des femmes, va pouvoir travailler justement la semoule et va avoir une position de femme qui serait allaitante. Et donc, tout ça, encore une fois, participe pour moi de ces récits où, en fait, on sort complètement du plat. Dès qu'on comprend ce qu'il y a derrière l'assiette, pour moi, c'est comme un monde magique qui s'ouvre.
Est-ce qu'on retrouve le couscous dans la cuisine levantine, Grégory Cohen?
Mais le couscous, il voyage. En fait, toutes ces cuisines-là, elles s'entremêlent. On est sur une région qui est très, très, très proche parce qu'elles s'entremêlent par soit les voyageurs, les cultures et les guerres successives qui ont fait qu'on est passé d'un type de cuisine à un autre type de cuisine. Le couscous, il s'est exporté, mais naturellement. C'est-à-dire quand on a eu les populations du Maroc ou alors d'Algérie qui sont allées au Proche-Orient, elles ont amené leur couscous avec elles, et du coup ce couscous il est rentré dans l'utilisation. Et
Farah Kerram, vous êtes originaire d'Algérie, avec des attaches tunisiennes également. De nombreux points communs rassemblent les cuisines d'Afrique du Nord. Il existe, on l'a dit, des disparités culinaires, symbolisées par exemple dans l'usage du piquant et de la sauce rouge à base de tomates. Par exemple, l'historienne Marie Kakel montre qu'il est possible de cartographier l'Afrique du Nord par le prisme de l'usage de la tomate et donc du rouge dans les plats traditionnels. Cette historienne observe que plus on se dirige vers l'est de l'Afrique du Nord, plus la sauce devient rouge, teintée de tomates et de piments, tandis qu'à l'ouest, elle reste dominée par les épices. Vous l'avez constaté, ça, en écrivant votre livre ?
Oui, alors pour ce livre, donc, j'ai été dans ma famille, donc à Tunis, Hammamet en Tunisie, Algérie et Biskra en Algérie. Et en l'occurrence, la question de la couleur des plats et de la sauce est vraiment fantastique, puisque il y a effectivement ces procédés qui sont purement culinaires, mais derrière tout ça, c'est l'anthropologue aussi Wiza Gallès qui rajoute que le fait d'utiliser de la sauce rouge et donc aussi du piquant permet de masquer des aliments qui pourraient être considérés comme assez pauvres pour les invités. Alors que par exemple dans l'algérois, on va être surtout sur une sauce blanche qui n'est évidemment pas la sauce blanche d'ici.
Kebabs.
Voilà, pour ne pas les citer. Mais bon, j'adore le kebab. Mais en l'occurrence, ça va être un bouillon avec des épices. C'est de la cannelle qui va finalement très peu teinter le plat et qui tout de suite confère une dimension assez noble à l'assiette.
Grégory Cohen.
Tout à l'heure, on parlait de la chouchouka ou de la chachouka. Ça aussi, on peut aussi constater parfois qu'il y a une chachouka qui va être rouge, 100% rouge. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de poivrons verts. On va laisser que des poivrons rouges, des tomates rouges. Tout la prédominance va être autour de cette couleur-là. Et ça vient parce que traditionnellement, dans cette famille-là, on avait soit accès à ces ingrédients plus facilement, soit autre chose. Et ça s'est transmis. Il faut savoir qu'il y a un truc qui est drôle dans cette transmission. C'est que parfois, on réplique quelque chose qu'on nous a donné sans avoir le contexte historique. Par exemple, très rapidement, c'est un célèbre réalisateur qui disait que dans sa famille, quand ils allaient acheter l'épaule d'agneau, ils demandaient au boucher de la couper en deux. Et ils demandaient, mais pourquoi ? Et elle disait, parce qu'en Algérie, c'est comme ça, on coupait l'épaule d'agneau en deux. Puis il creuse, et tout simplement, la grand-mère dit, mais mon fils, en Algérie, les fours, ils étaient tout petits. Et donc, voilà l'explication.
Allez, il est l'heure de retrouver le plaisir littéraire de Christy Lamalédouelle. Alors, Christilla, vous avez choisi La petite fasciste de l'excellent Jérôme Leroy.
Excellent, vous le dites et vous avez bien raison. Alors, Jérôme Leroy, c'est un romancier, un poète. Il a été aussi prof pendant de longues années dans le nord de la France. Et donc, il écrit des romans jeunesse. C'est important parce qu'il a complètement saisi comment fonctionne un récit. C'est un court roman à peine 200 pages, mais alors je peux vous dire que c'est d'une intensité et d'une densité qui vous laisse un petit peu chaos à la fin. C'est absolument remarquable. Alors Jérôme Leroy, en plus, c'est un écrivain qui est un vrai littéraire, qui a une écriture qui à la fois tape, vraiment, rappeuse et en même temps extrêmement poétique, littéraire, douce.
Et fluide,
enfin c'est vraiment remarquable, vraiment remarquable. Bref, en tout cas, l'histoire est la suivante. Dans une France complètement déglinguée...
Petite incise, il raconte ça depuis des décennies. Il suffit de lire ses nouvelles et ses romans de fin des années 90, des romans dystopiques qui se passaient dans une France que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a une préscience chez Jérôme Leroy qui est assez remarquable.
Une préscience et un talent d'analyse politique, j'entends, qui est absolument remarquable. Bref, en tout cas, dans celui-là, c'est pas vraiment une dystopie, ça se passe maintenant. Non, dans les années 2020, on ne sait pas trop. Ça commence par une première référence littéraire, mais ça c'est pour les gens qui aiment ça. C'est un début à la Julien Gracq, absolument un début à la Julien Gracq. Un narrateur qu'on ne voit pas, on ne sait pas qui c'est, commence en disant qu'il va nous raconter ce qui s'est passé en France et ce qui a entraîné à la fois la chute de la démocratie et la chute d'un gouvernement. Voilà. Mais on ne sait pas qui c'est. Donc, ça se passe dans le nord de la France, qu'il connaît bien, mais un nord un peu inventé, hein, un endroit qui n'existe pas. Une jeune fille qui a une vingtaine d'années, qui est une élève extrêmement brillante, qui est en cagne lettres classiques, j'insiste sur le lettres classiques, est issue d'un milieu d'extrême droite et identitaire. Et non seulement elle est issue de ce milieu qui est très, un milieu bourgeois très rude, mais en plus, elle fait partie d'un mouvement identitaire et très violent. Alors ça commence par un premier chapitre où il y a un tabassage et une série d'assassinats qui est absolument sidérant. Le truc qui va se passer, c'est que cette jeune fille va tomber, en le rencontrant par hasard, complètement amoureuse, et ce sera réciproque, un coup de foudre entre un député d'une soixantaine d'années, un député socialiste qui veut se représenter, et cette jeune fille d'extrême droite. Ce qui va se passer entre les deux, c'est une passion brûlante.
N'en dites pas plus. On va lire la suite.
Je ne dis pas plus, mais c'est vraiment un roman remarquable.
La petite fasciste de Jérôme Leroy, et c'est publié
à la Manufacture de Livres.
Merci Christina. Dans un instant, nous continuons de célébrer les plaisirs des cuisines levantines et nord-africaines avec quelques recettes de saison. On se retrouve juste après avoir écouté Dalida. Salma, Yassalama. Ah, Grégory, vous êtes bien là, hein?
Bah oui.
Dalida, Salma, Yassalama.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ?
Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Bien Vous Fasse Weekend, nous célébrons les plaisirs des cuisines levantines et nord-africaines avec quelques recettes et un ingrédient clé.
Ça, c'est le repas levantin. Voilà, regarde déjà les couleurs. Le kébé de pommes de terre pour les martiens. Et ensuite, la mousse au chocolat et au zaatar. Notre arme secrète, nous, levantins, c'est le zaatar. C'est un condiment qui est fait d'origan, de sésame torréfié et de sumac. Le sumac, c'est un réparateur. Pour moi, c'est carrément un médicament. C'est vraiment très, très, très bon.
Avec nous, Grégory Cohen qui publie Yalla, ma cuisine méditerranéenne, et Farah Kéram qui publie avec Nina Medioni, cuisine d'Afrique du Nord. Le za'atar, c'est l'un des indispensables de la cuisine levantina.
Levantina, c'est clair, c'est clair. C'est un peu comme le ras el hanout dans la cuisine nord-africaine, où en fait, le za'atar, il y en a plein de différents. Alors, la base, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est de l'origan. Qu'on va trouver, qui est une plante qu'on va trouver en Italie principalement, et donc qui est remontée vers l'Empire du Levant. Évidemment, de la sésame, des graines de sésame. Alors après, on fait un peu comme on veut, et c'est toujours une question de mélange et de dosage.
On peut l'acheter tout prêt aussi.
Enfin, on l'achète tout prêt.
Comment vous l'utilisez, vous ? Comment vous aimez l'utiliser, ce za'atar ?
Alors le za'atar, on va l'utiliser soit dans la cuisson, soit dans les sauces, soit après en assaisonnement. On peut vraiment l'utiliser comme on veut. Par exemple, si on veut faire un grand classique qui est le chou-fleur rôti, on va prendre un chou-fleur, on va le blanchir. Blanchir, ça veut dire qu'on va le mettre dans de l'eau bouillante pendant à peu près une dizaine de minutes. Il va être mi-cuit. Ensuite, on va prendre son four, on va le mettre à 200 degrés. Et puis, on va enduire son chou-fleur d'huile d'olive et de za'atar, et on va le mettre juste à rôtir au four. Et quand on va le sortir, on le sert avec une crème de sésame, par exemple, et c'est absolument divin. Et le za'atar va apporter ce côté hyper aromatique que l'origan va développer principalement, et puis le sumac évidemment aussi, et c'est exceptionnel en termes de goût, c'est vraiment fabuleux.
Farah Kéram, pas de za'atar dans les cuisines d'Afrique du Nord, mais quelles sont les épices indispensables à avoir dans son placard si on veut réaliser les nombreuses recettes de votre livre ?
Épices et condiments aussi. Je dirais tout d'abord du piment en poudre et aussi du piment frais quand la saison le permet. Absolument du ras el hanout.
C'est quoi le ras el hanout, Grégory Cohen ?
Alors c'est je crois littéralement tombé de l'étagère où en fait un petit peu toutes les épices. Il y a pas un ras el hanout. Chaque épicier va réaliser son ras el hanout, mais il peut y avoir du clou de girofle dedans, de la cannelle, du cumin évidemment. Ça c'est essentiel. Et donc chaque fois on va avoir des goûts qui peuvent être un petit peu différents. Faut vraiment absolument le goûter. Et puis faut pas acheter le ras el hanout quand vous allez dans une épicerie. Vous savez les pyramides, d'ailleurs, en règle générale, les pyramides d'épices, quand vous les voyez dans une épicerie ou même en extérieur, n'achetez jamais ça. S'il vous plaît, n'achetez jamais ça sur les marchés. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a une tonne de poussière qui va se mettre dessus. Et deuxième chose, les épices sont les meilleures quand elles viennent d'être moulues. Et ça, c'est hyper important. Rentrez chez l'épicier et demandez-lui de moudre les épices et achetez-les à ce moment-là. Il a forcément de quoi moudre ses épices et là, vous allez avoir quelque chose qui va être le jour et la nuit.
Quels sont les autres indispensables du placard quand on souhaite cuisiner des mets d'Afrique du Nord ou issus de la cuisine levantine, Farah Kéram ?
Cumin. Le cumin, en fait, qui arrive pour moi en seconde position juste après le piment rouge en poudre, parce que justement, ça a notamment des vertus très fortes, on le sait, de digestion. Ça parfume, je pense à l'ahdès, qui est un bouillon de lentilles qu'on peut faire soit en soupe, soit en version un peu plus consistante, avec une tonne de cumin frais, justement. Et puis aussi de la très bonne huile d'olive, qui n'est finalement pas anecdotique. On peut la trouver, en tout cas, sur la rive nord de la Méditerranée, de notre côté de la mer, sur énormément de tables. Malheureusement, la réalité sociale, économique et sanitaire aujourd'hui en Afrique du Nord fait que l'huile d'olive est en danger, puisque le prix ne cesse d'augmenter et que son qualificatif d'or vert, maintenant, prend tout son sens.
Grégory Cohen, sur les condiments, les herbes, les conserves à avoir dans son placard.
Ça, c'est sûr que le cumin, c'est numéro un. Moi, j'adore le paprika fumé. Je rajouterai aussi du curcuma, qu'on va pouvoir utiliser dans les tagines de poulet au citron, dans les fèves aux olives, dans les artichauts barigoules. Il y a plein de recettes là-dessus. Le sumac, qui est peu connu, peu utilisé, mais qui est incroyablement bon. Et puis, évidemment, la harissa. Là aussi, faire attention. Et il y a plein d'harissa différentes. Il y a l'harissa berbère, il y a l'harissa tunisienne. Et d'ailleurs, en Tunisie, c'est très drôle parce que harissa, c'est même ça dénomine trois plats différents. Un plat qui s'appelle l'harissa, qui est à base de plaie. Un autre plat qui est un dessert, l'harissa, qu'on appelle en Algérie le gabelouze, et un troisième qui est le condiment pimenté. Donc c'est assez drôle. Je me demande d'ailleurs comment. C'est-à-dire quand on est dans un restaurant, je vais prendre un petit peu d'harissa, mais de quoi ? Tu veux le dessert ou comment ça se passe ?
Et puis il est toujours bon d'avoir des boîtes de pois chiches, de lentilles dans son placard. Hein, et bien, qu'il s'agisse des cuisines levantines ou nord-africaines.
Alors, moi, je conseille les pois chiches secs. Ça nous permet en plus de les conserver beaucoup plus longtemps. Ça, c'est top. Si on n'a pas le temps, pas grave, on les achète en boîte. De la crème de sésame, la tahini. Ça, c'est typique de la cuisine levantine. C'est de la purée de sésame qu'on va pouvoir utiliser, avec laquelle on va pouvoir faire ce fameux houmous, ou avec laquelle on pourra faire de la trina, qui est une crème de sésame un peu plus liquide, détendue avec un petit peu de jus de citron et de l'eau, mais pas de pois chiche. Et donc, tout ça, c'est aussi... Le sésame, hyper important dans la cuisine levantine.
Et puis évidemment, il faut avoir de la semoule ou du boulgour, et du boulgour dans son placard, Farah Karam.
Ah, toujours, du blé dur sous toutes ses formes, parce que la semoule permet aussi bien la confection de pain que
de semoule fine.
De semoule fine, tout à fait. En fait, même permet une multitude de pains qui sont pour moi très... très cher à mon cœur.
D'ailleurs, vous avez apporté un pain absolument magnifique. C'est le badboot. Racontez, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce pain, on le connaît aussi sous un autre nom. C'est un cousin, c'est le matlor. Racontez-nous quel est ce pain qui est fait à base de semoule fine, de blé dur.
Alors ce pain, c'est donc un pain semoule qui est levé. J'ai fait celui-ci avec un mélange de levure et de levain. Et en l'occurrence, c'est pour moi un peu l'emblème des pains nord-africains qui sont extrêmement vastes. Et c'est un répertoire et une littérature à part entière.
Et quelle est sa particularité ?
Sa particularité, c'est qu'il se mange avec absolument tout et qui constitue en lui-même un plat en tant que tel. Et donc, il est
levé. Du petit déjeuner jusqu'au goûter, en passant par les sandwichs, c'est un pain absolument formidable. Et que l'on fait à la poêle. Hein.
Que l'on fait à la poêle. Et c'est ça, pour moi aussi, l'une des forces et des vertus des pains de l'Afrique du Nord, c'est que je les appelle presque pain instantané minute, c'est-à-dire que sans four, avec juste une poêle, même des plaques à induction ou électrique, on peut réaliser un pain quasiment minute, entre guillemets. Je pense aussi à la kesra, qui, elle, est une galette non levée, qui, vraiment, montre en main, peut prendre 15 minutes. Et
à base de semoule et d'huile d'olive.
Tout à fait, et de sel et de thym. Mm-hmm. Toujours, c'est l'ingrédient en plus. En l'occurrence, le matlor et le badboot, comme vous l'avez souligné, Ali, c'est assez fantastique parce qu'on peut en faire un sandwich, ça devient un mets à part entière. Tout, moi, je l'adore tout simple, nature, avec un café noir le matin.
Alors, ce pain plat avec une salade cuite, dans votre livre, vous parlez du hmis, H-M-I-S-S, à base de poivrons et de tomates. C'est absolument magnifique. Hein. Racontez-nous un peu la recette de cette salade.
Alors, on est encore là sur une salade cuite, comme on trouve beaucoup en Afrique du Nord. Et le hmis, pour moi, c'est... déjà, c'est le goût de la maison. C'est vraiment cette odeur d'ail qui a confit et de poivrons grillés qui ensuite ont été cuits avec la tomate. Et pour moi, ça met en lumière à quel point le poivron et toutes les variétés de poivrons ont une multitude d'usages et peuvent se déployer dans tellement de recettes différentes. Et c'est à la cousine de la méchouia en Tunisie. Et ça me fait penser à un chef que j'admire beaucoup qui s'appelle Fadi Kattan, qui est un chef palestinien à Bethléem et à Londres. Et lui, justement, il tient aussi à ces questions de frontières culinaires parce que le poivron va être travaillé, ou le foule, de manière complètement différente selon des pays voisins aussi. Et c'est un peu toute l'ambivalence de ces cuisines et de ces recettes-là, c'est qu'à la fois, il y a une porosité culinaire très forte, et il faut sortir du nationalisme culinaire, et d'un autre côté, il y a des singularités qui s'expriment parfois juste par le poivron.
Alors cette salade de poivrons grillés et de tomates pour 4 personnes, il faut 5 tomates rondes bien mûres, 1 kg de poivrons verts, 6 gousses d'ail écrasées, 3 piments verts, c'est facultatif, de l'huile d'olive, et accompagné du pain dont nous parlions, c'est absolument divin. Grégory Cohen, une recette dans votre livre Yalla, publié chez Le Duc, c'est la chakchouka, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est cousin de la recette qu'on a évoquée.
Ouais, c'est cousin. Là, celle-là, en plus, je l'ai faite rouge, donc 100% rouge. Sauce tomate, poivron confit. On la laisse mijoter le plus possible. On rajoute même un petit peu de sucre pour la caraméliser. Et puis, cette chakchouka, ensuite, on peut, une fois qu'elle est prête, soit la manger comme une salade cuite simple, soit alors casser un œuf dedans et la mettre au four au moment du service des invités, en petit ramequin individuel. Et ça, c'est hyper bon, avec quelques petites pointes d'harissa dessus et du coriandre haché, c'est exceptionnel.
Et on retrouve une recette similaire dans votre livre Farah Kerama.
Oui, et d'ailleurs ça...
La chakchouka, là, cette oui. fois. Ça s'appelle comme ça dans votre
en
livre.
En fait, parce que ma mère prononce ça chakchouka, donc je l'ai fait littéralement. Merci de souligner la private joke entre elle et moi. Et c'est un clin d'œil, parce que donc aujourd'hui, on est le 16 mai. Et en l'occurrence, hier, le mot chakchouka a fait son entrée dans le Petit Robert 2026. Donc c'est aussi... Ça montre à quel point ce plat est central et est un plat du quotidien.
Une salade très populaire au Liban et ailleurs, c'est le taboulé à base de boulgour fin et de beaucoup d'herbes fraîches.
Ah ouais, alors le taboulé, moi j'adore parce que c'est vraiment la salade, en tout cas le... Allez, ce qui rassemble le plus, et on peut faire un taboulé d'herbes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un moment où on peut se lâcher complètement. On va mettre des herbes fraîches. On n'hésite pas à mélanger aussi de la menthe à l'intérieur. Très souvent, on considère que la menthe, c'est plus orienté vers les desserts ou orienté vers les boissons. Et en réalité, quand on commence à mélanger de la menthe avec de la coriandre, avec du persil plat, et ben d'un seul coup, on va se retrouver avec un espèce de mélange. Quand je disais que cette cuisine, c'était une cuisine décomplexée, c'est là où c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'elle arrive et elle bouscule les codes. Quand Otolenghi amène ce genre de cuisine, et ben d'un seul coup, on se dit, mais quoi, on va mélanger de la menthe dans un plat qui est salé? Et en fait, comment ça va fonctionner? Et en fait, ça fonctionne très bien. Donc, il faut vraiment essayer.
Votre recette de falafel, cette fois, aux lentilles corail, dans votre livre, Grégory Cohen?
Ouais. Alors ça, les falafels...
Pourquoi vous avez choisi les lentilles corail plutôt que les pois chiches?
C'est arrivé avec une erreur. En fait, je fais mes courses et je parle avec mes enfants et machinalement, je suis devant les lentilles et je prends un paquet de lentilles. J'arrive à la maison et lentilles corail, grosse flemme de retourner faire les courses, hein, objectivement. Et du coup, je me dis, je vais tenter cette recette avec les lentilles corail. Ça fonctionne super bien. Du coup, pas de pois chiches dedans. Alors que dans les falafels, naturellement, on aura plus de pois chiches.
Rappelez ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, les falafels, en fait, c'est une espèce de petite boulette qui est frite, donc qui est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. On peut la faire aussi un peu comme on veut, c'est-à-dire qu'elle peut être très très verte, c'est-à-dire qu'on la charge énormément en herbes, ou alors on peut la faire beaucoup plus claire en fonction de ce qu'on va réaliser. Normalement, traditionnellement, elle se fait avec du pois chiche. Et moi... Justement par rapport à cette recette, je l'ai faite avec des lentilles corail.
Un autre incontournable de la cuisine levantine, c'est le houmous. Quels sont vos conseils pour le réussir? Le houmous, c'est une purée à base de pois chiches et de crème de sésame. Comment la réussir quasiment à coup sûr?
Alors le houmous, il ne faut pas avoir peur parce qu'il va changer de texture trois fois. On va commencer par prendre de la crème de sésame, tahini. Ensuite, on va rajouter de l'acide citrique, c'est-à-dire du jus de citron, pour la faire courte. Et là, d'un seul coup, il va devenir très épais. Presque une pâte dure, c'est-à-dire si on met sa fourchette dedans, elle va tenir toute seule. Et ensuite, on va la détendre, cette crème, avec de l'eau. Jusqu'à ce qu'on ait une texture qui va s'approcher de quelque chose de nappant. Et puis ensuite, on va rajouter un petit peu d'huile. Et là, on va mettre notre pois chiche dedans. On passe tout ça au mixeur.
C'est encore mieux si on arrive à enlever la petite peau.
Si on arrive à enlever la petite peau, c'est magnifique. Si on n'arrive pas... on peut vivre avec.
Parmi les 48 recettes de votre livre, Farah Kerama, quelle est la recette que vous avez envie de partager là ce matin?
Ça va peut-être être surprenant, mais ça va être une recette de tisane pour parler d'un fruit qui m'est très cher et qui est la grenade. Parce que la saison des grenades qui survient à la fin de l'été en octobre en Afrique du Nord est fantastique. Et j'ai vraiment découvert ça auprès de ma famille en Tunisie. C'est-à-dire que ça consiste à sécher les peaux de grenade et ensuite donc faire bouillir de l'eau, faire légèrement infuser et ajouter un peu d'eau de fleurs d'oranger ou d'eau de fleurs de géranium. Et pour moi, ça sacralise tout. Des terroirs nord-africains, c'est-à-dire c'est, on va être sur de l'eau florale qui est d'une poésie et d'une poésie olfactive et d'une délicatesse inouïe. Et pour moi, ces cuisines sont d'une délicatesse et d'une poésie inouïe et pas comme on les perçoit souvent en France, donc trop sucrées, trop grasses, trop odorantes. Et aussi parce que ça a des vertus digestives et d'apaisement et dont j'ignorais beaucoup. Et deuxième recette, si vous me le permettez, Ali, c'est un couscous qui fait partie du livre, qui est le couscous à fourreau, qui vient de ma famille, qui m'a été légué par ma famille en Kabylie. Et il est très simple, il n'a pas de bouillon, et il est vraiment juste servi avec des légumes de printemps vapeur. Et encore une fois, c'est, pour moi, c'est le printemps dans l'assiette, c'est l'incarnation de l'héritage amazigh, la cueillette des femmes, le potager, et le vert, en fait, la chlorophylle et... Et voilà, je l'adore.
Moi, une recette que j'ai retenue dans votre livre, que j'affectionne, Grégory Cohen, c'est le labneh. C'est un fromage frais que l'on peut réaliser à la maison, qui est très, très frais, très, très agréable en cette période de beau temps, qu'on peut amener en pique-nique. En quelques mots, ce labneh.
D'abord, ça m'étonne pas que ce soit une de vos recettes que vous aimez, parce que ça, c'est sûr que j'aurais dit, vous connaissant un petit peu, que cette recette, elle allait vous plaire. En fait, on va prendre du yaourt qu'on va...
Grec, plutôt.
Du yaourt grec, un yaourt un peu épais, évidemment. Et on va tout simplement lui mettre un petit peu de sel fin pour le faire dégorger.
Dans une étamine.
Le maximum de son sel, dans une étamine. Alors, ce qu'on peut faire, pour la faire très très simple, on a tous une passoire, on va rajouter un torchon au fond de la passoire.
Moi, vous savez quoi, je déplie de la gaze qu'on a dans sa boîte à pharmacie et vous la dépliez.
Exactement.
Vous en mettez 3 ou 4, vous prenez une passoire, vous mettez votre fromage grec, un peu de sel, vous laissez égoutter.
Exactement ça. Bah voilà.
Et donc après,
parfait. Après, c'est l'huile d'olive, du zaatar, un petit peu de piment et on a un super labneh avec du pain, évidemment.
Le pain que nous a amené Farah, le bakout, ou du pain pita.
Ou du pain pita. Et c'est marrant parce que Farah, quand tu donnais ces recettes sur la grenade, moi, chez moi, dans ma famille, on fait beaucoup les graines de grenade avec juste la fleur d'oranger à l'intérieur. C'est absolument dingue. Et sur ce fameux couscous, ça aussi, c'est un couscous, nous, on le fait aussi, mais qu'avec des fèves vapeur, avec un petit peu de lait ribot ou du petit lait. Et on peut aussi rajouter un peu de sucre. Et alors, c'est très rare, parce qu'en Algérie, généralement, on ne met pas de sucre. C'est plutôt marocain de rajouter du sucre dans ces recettes. Mais là, sur cette recette-là, c'est la seule recette que je connaisse où on peut mettre du sucre dedans.
Oui, ça me fait penser à ma comparse dans ce livre, Nina Medioni, qui est la photographe du livre et qui est une très chère amie, dont la famille paternelle est juive d'Oran. Et elle m'a fait la joie, en fait, de partager une de ses recettes dans le livre, qui est le couscous sucré de sa grand-mère.
Voilà.
Allez, il est l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, rend bien vous face.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors mon cher Thibaut de Saint-Maurice, ce matin dans le prolongement de notre conversation, vous vous demandez si l'on peut dire que certaines cuisines sont meilleures que d'autres.
Mais oui, Ali, question alors faussement naïve hein, pour commencer. Certaines cuisines sont-elles donc meilleures que d'autres? Bien sûr, me direz-vous, si c'est une question de goût, oui, il y en a qui sont meilleures que d'autres parce que le goût diffère selon les personnes. Chacun a bien droit de préférer et d'exprimer sa préférence pour telle ou telle cuisine, tel ou tel plat, tel ou tel ingrédient. Deuxième sens de la question, certaines cuisines sont-elles meilleures que d'autres pour la santé? Alors on parle par exemple du fameux régime méditerranéen comme étant favorable, ou aussi de la cuisine japonaise, de la grande place qu'elle donne aux poissons. La réponse cette fois est un peu moins relative car elle s'appuie sur des analyses nutritionnelles et on peut établir des probabilités ou des moyennes. Mais même s'il y a des conséquences objectives sur la santé, les bons effets sur la santé de telle ou telle cuisine dépendront finalement toujours de la situation de la personne, de son environnement et de son activité physique. Dernier sens de la question donc, certaines cuisines sont-elles meilleures que d'autres au sens où elles seraient d'une qualité supérieure? Certaines sont-elles plus raffinées, plus intéressantes, plus complexes, objectivement? Peut-on dire, comme on l'entend souvent parfois, que la cuisine française est la plus importante du monde? Peut-on dire que les cuisines argentines ou arméniennes ne sont pas très intéressantes et donc moins bonnes?
Vous vous demandez, Thibault, en fait, s'il y a une hiérarchie des différentes cuisines du monde?
Exactement. Et pour m'aider à poser cette question, je fais appel à l'ami Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue qui a travaillé autant sur la cuisine que sur la diversité culturelle. Pour Lévi-Strauss, il y a évidemment une diversité des cuisines, comme il y a une diversité culturelle, puisque la cuisine est une expression quasi immédiate de la culture. Et Lévi-Strauss remarque que dès qu'il y a de la différence quelque part, eh bien, les hommes ont naturellement tendance à créer des hiérarchies. Alors ça peut se faire entre des cultures, des couleurs de peau, des techniques de vie ou des habitudes culinaires. Et évidemment, ils mettent leur propre culture tout en haut de la pyramide. C'est ce que Lévi-Strauss appelle l'ethnocentrisme. Alors c'est comme l'égocentrisme, mais pour sa propre culture. Cette hiérarchie-là, au fond, elle n'a aucun sens. Elle n'est que l'expression d'une ignorance. Il n'y a pas de culture qui soit supérieure à une autre, comme il n'y a pas de cuisine qui soit meilleure qu'une autre. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est que ce qui est supérieur ou pas est toujours finalement relatif à un critère d'évaluation. Une culture, par exemple, peut être plus avancée technologiquement ou économiquement. Mais une autre peut être bien supérieure quand il s'agit de vivre dans le grand froid des pôles ou dans la grande chaleur des déserts. Et la deuxième raison, c'est qu'une culture n'est jamais une réalité close et exclusive. Ce que nous appelons notre culture est toujours le résultat de rencontres avec d'autres cultures qui nourrissent, élargissent et transforment les habitudes premières. Et c'est particulièrement évident en cuisine, et on vient de l'entendre et de le constater depuis une heure. Les cuisines de chaque région du monde ne sont pas des monologues, mais des dialogues. Chaque cuisine dialogue avec les cuisines qui l'entourent, comme chaque culture dialogue avec les cultures qui l'entourent. Alors ici, ça va être une épice, là un mode de cuisson, là encore un fruit ou un légume qui vient d'ailleurs. Et tout ça façonne des différences, certes, mais en aucun cas des hiérarchies. Il n'y a donc pas de cuisine qui soit meilleure qu'une autre, mais il n'y a que des cuisines partagées et qui invitent au partage.
Farah Karam.
Oui, merci infiniment Thibault pour vos mots, parce que qui trouvent écho en moi, puisque c'est ce qui a motivé l'écriture de ce livre. Donc Ali, vous l'avez spécifié, je suis journaliste culinaire et j'ai constaté une absence de vision anthropologique et sociologique de ces cuisines-là. Pour être très simple et très brève, dans l'espace public en France, on les voit partout, les cuisines d'Afrique du Nord. Et elles sont pourtant très, très méconnues. Les diasporas sont extrêmement nombreuses, on le sait. Or, on méconnaît les recettes, on méconnaît en fait toute la rituelle, encore une fois, qui entoure ces cuisines-là. Et Mohamed Oubali, qui est un historien marocain, lui parle effectivement de hiérarchisation dans les cuisines dites du monde et déplore un manquement sociologique du point de vue de la France, en fait, envers ces cuisines-là. Et je crois qu'il est important de parler, en fait, de faire de plus en plus de place à ces cuisines du monde.
Tiens, Thibault de Samaris, vous êtes adepte de ces cuisines levantines et nord-africaines?
Oui, précisément parce que...
Je précise que vous avez bouloté la moitié du pain qu'a amené Farah Karam.
Je l'ai aidé.
Mais précisément parce qu'elles sont partout. Et que en fait, il est extrêmement facile. Et en revanche, sans doute que ça m'arrive d'en avoir mangé bien plus que ce que je ne crois, parce qu'il est vrai que j'ignore beaucoup de choses à leur sujet. Et donc là, j'ai appris aujourd'hui plein de choses et je serai plus attentif.
Tous les épisodes de la chronique philo de Thibault de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Dans un instant, la chronique de notre linguiste Julie Neveu avec la langue. On se retrouve juste après avoir écouté le très beau titre de Jeanne Chéral que j'adore, qui interprète Jean.
Jean, j'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. Jean, on est connu des plus forts que vous, Jean. On est connu des plus beaux que vous, Jean. On est connu, mais il n'était pas vous. Jean, Jean. en secret tout au fond du jardin. Jean, est-ce la ligne de votre cul, Jean, ou vos yeux qui m'ont convaincu, Jean, que la vie vaut d'être vécue?
Jeanne Chéral, interprétée Jean.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors, Julie Neveu, on s'intéresse ce matin à la formule « on ne peut plus rien dire » qu'on entend parfois à la télé, à la radio, ou bien dans certains repas de famille, avec par exemple l'oncle blanc de 60 ans qui n'aime pas qu'on lui coupe la parole.
Eh bien oui, Alice, c'est pas évident d'y réfléchir, parce que la formule empêche de penser, elle clôt le débat, rien n'y est clair et tout est implicite. D'abord le sujet « on ». C'est qui « on » ? C'est vous et moi ? C'est tous les Français ? C'est vous qui nous écoutez à la radio ? « On » est un pronom de troisième personne dont la référence est potentiellement à géométrie variable. Mais dans la réalité de cette phrase prononcée au premier degré, est-ce que « on » c'est vous, Ali, qui êtes racisé ? Moi, qui suis une femme, quiconque autour de cette table qui est conscient des inégalités systémiques de notre société ? Est-ce que ce serait pas plutôt l'oncle blanc qui, à la fin de sa tirade de 10 minutes sur la tyrannie du wokisme, le féminazisme et les ravages de l'islamo-gauchisme à l'université, s'exclame, tel Nicolas Dupont-Aignan, qu'on ne peut plus rien dire, donc il le dit ?
On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Ben moi je vous le dis, on peut plus rien dire. Donc je le dis.
Donc il le dit quand même, mais alors qu'est-ce qui a changé ? Ce plus de la phrase « on ne peut plus rien dire » signale, toujours implicitement, l'opposition avec un avant, de type âge d'or, comme l'Amérique à qui Trump veut rendre sa grandeur. Make America great again. Bref, l'âge d'or de l'oncle blanc, c'est quand ? Quand tu bandais tout le temps, tonton ? Avant 1972 et la loi Pleven contre le racisme, qui crée le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ? Pas sûr que l'oncle sache vraiment le situer, son âge d'or. Celui, en tout cas, où il pouvait tranquillement occuper le terrain de la parole en toute impunité et tranquillité, sans que la petite nièce le traite de vieux réac. En fait, ce dont souffre l'oncle blanc, c'est de la contradiction. Lorsqu'il semble invoquer avec dire la liberté d'expression, ce n'est pas en tant que valeur démocratique. Je rappelle à tonton que le fait même qu'une pluralité d'opinions et d'arguments puisse être entendue prouve qu'elle est encore possible, la démocratie, ce qui n'est plus le cas aux États-Unis. La vraie motivation de la phrase, ce n'est pas le souci du principe démocratique, donc c'est de la frustration. On lui a retiré le monopole de la parole, le boulevard de la tirade, l'autoroute de l'opinion exprimée à voix haute. Ce qui va mal donc, ce n'est pas la démocratie, c'est le moral de l'oncle blanc. Il a mal à sa toute puissance. Parce que si on regarde le verbe de la formule, on ne peut plus rien dire. De quel droit parle-t-on en réalité ? Depuis 1881, notre liberté d'expression est à la fois protégée et réglementée par la même grande loi sur la presse qui est toujours en vigueur. La linguiste Anna Arzoumanoff le montre très concrètement dans son dernier livre « Juger les mots » chez Actes Sud. Anna Arzoumanoff explique le gros travail d'interprétation que fait la 17e chambre pour déterminer si tel propos est condamnable d'après la loi. On y apprend plein de trucs passionnants, notamment qu'Éric Zemmour a longtemps trouvé un moyen malin de diffuser des discours de haine sans se faire punir, en jouant sur le texte même de la loi. Eh ben oui, comme il y a délit que si on porte préjudice à l'ensemble d'une communauté, pendant des années, tonton malin Eric a réussi à faire passer des propos islamophobes en précisant « la plupart des musulmans ». pas tous donc. Mais il a péché par orgueil, il s'est trop vanté de son mot magique la plupart, et il a fini par être condamné. Bref, la technique de l'oncle Eric est vieille comme le monde. Pour continuer d'occuper la parole de façon efficace, il retourne, inverse les rôles, il prend celui de la victime. Il joue aux braves qui osent défier cette majorité écrasante de tyrans wokistes. Il simule la minorité offensée, fait au passage un appel du pied au camp politique de la réaction, tout en nous détournant du vrai danger qui guette les démocraties, la fin de la contradiction.
Bon, moi je vais créer une ligue de défense des tontons, j'en ai marre qu'on tape sur les tontons, il y en a assez. Réaction Thibaut de Saint-Maurice.
Ben, le fait que vous puissiez créer cette ligue et qu'il va réunir sera justement la preuve qu'on peut encore dire des choses. Et en réalité, on ne pourra plus rien dire quand on ne pourra plus rien dire du tout. C'est-à-dire quand on ne pourra même plus dire qu'on ne peut plus rien dire.
Vous comprenez que ça puisse choquer qu'on parle de tonton blanc parmi nos auditeurs qui pourraient être un peu heurtés par cette formulation?
Ce qui est intéressant, c'est que je me suis interrogée sur le stéréotype que j'utilisais, le cliché, mais de fait... Et ce qui est le plus grave, c'est pour ça que je le dis à la fin de la chronique, c'est la récupération politique de cette formule qui fonctionne quasiment comme ce qu'on appelle un dog whistle, vous savez, un sifflet de chien pour dire ok, c'est le camp politique qui est marqué ici en fait. Et donc oui, il est souvent incarné dans la réalité, néanmoins par des figures d'hommes plutôt qui font partie de la majorité dominante quoi.
Thibaut.
Oui, après, ils ne sont pas forcément tontons, qu'ils aient des neveux, des nièces, peu importe.
Bien sûr.
Non, mais en fait, dans la mesure où c'est une catégorie qui utilise du cliché, du stéréotype, etc., il n'est pas interdit non plus de les stéréotyper et d'utiliser des clichés à leur égard.
Tous les épisodes d'Avec la langue de Julie Neveu sont à podcaster sur l'appli Radio France. Merci aux amis du vendredi, Julie, Thibaut et Christina. Merci, Farah Keram. Je recommande la lecture de Cuisine d'Afrique du Nord chez Flammarion, 48 recettes et récits intimes culinaires. Je recommande également votre livre, Grégory Cohen, Yalla, ma cuisine méditerranéenne, chez Le Duc, 55. J'en ai mis deux de plus.
Plus 11.
55 recettes salées et 11 gourmandises. Merci à tous les deux. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Lucie Grandet-Lavigne, Cyrine Ben-Younes et Joseph Ascal, avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation Claire Destacan, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, avec Cerveau et Psycho, nous verrons ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on remet au lendemain, avec notamment le mental Fabien Olicard, des astuces pour mieux s'organiser et moins procrastiner.